Chapitre 82. Yona choisit un chemin plus court, manœuvre à travers les remous et s'engage dans ce qui reste des chenaux que les brises glaces avaient ouverts avant la tempête. Il tourne le volant et fait face à une gigantesque vague. Le bateau perd complètement le contact avec la surface, la coque en fibre de carbone retombe brutalement et l'eau inonde le plancher. Agnetha descend l'escalier, les jambes tremblantes et le cœur battant la chamade. Derrière elle, elle entend Hugo, la voix tremblante de larmes, tenter de convaincre son père d'abandonner et de lâcher la hache. La tempête rugit.
On reste ici, et on parle de...
Tu restes ici ! Rugit Bernard. Un bruit mat retentit à l'étage comme un corps qui s'effondre lourdement au sol. Agnetha descend les dernières marches en courant, glisse sur le sol verni de la bibliothèque et tombe sur l'épaule en gémissant. Derrière elle, des pas se précipitent dans les escaliers. Elle se relève, chancelle, se rue dans la cuisine et atteint la porte d'entrée. Celle-ci penche vers l'intérieur et la charnière supérieure a cédé. Agnetha enfile rapidement ses bottes, attrape une veste et tente d'ouvrir la porte sans y parvenir. Elle pousse de toutes ses forces en cédant de son épaule, mais quelque chose résiste. Probablement le grand érable arraché.
« Je veux juste te parler !» crie Bernard depuis la bibliothèque.
Elle retourne dans la cuisine et referme doucement la porte derrière elle. Contournant la table à manger, elle atteint la petite porte qui mène à la bibliothèque. Elle prend une inspiration et entre dans la pièce sombre aux hautes étagères juste au moment où des pas lourds retentissent dans le couloir en direction de la porte d'entrée. Elle aurait dû prendre un couteau de cuisine. Trop tard maintenant. Elle passe silencieusement au pied de l'escalier et étouffe un cri en voyant une silhouette près de la cheminée éteinte. C'est Hugo. Il a un tisonnier à la main. Elle voit Bernard au bout du couloir, dans l'entrée. Son regard est rivé sur elle. Hugo la tire hors de la bibliothèque et tous les deux se précipitent vers le salon. Les pendeloques en verre du candélabre baroque tintent comme pour les trahir. On les distingue à peine dans l'obscurité. Bernard les suit, soufflant comme une bête. Agnetha court maladroitement dans ses grosses bottes. Hugo l'entraîne dans sa chambre et jette le tisonnier sur le lit. Il verrouille la porte et se précipite vers la fenêtre.
« Elle a été condamnée après l'effraction !» chuchote Agnetha.
L'écho assourdissant de la tempête résonne entre les murs. Hugo éclaire faiblement la pièce avec son téléphone. La fenêtre est entièrement obstruée par la neige. Agnetha sursaute. Lorsque Bernard secoue la poignée, il cogne violemment contre le bâton en bois. Hugo se précipite vers son fauteuil et le pousse pour dégager la porte qui mène au salon. La lampe en papier suspendue tourne sur elle-même, plus un bruit dans le couloir. Hugo inverse la caméra de son téléphone, se met à genoux et le glisse doucement sous la porte du salon. Sur l'écran, on distingue le dessous d'un buffet. Un courant d'air glacé frôle leurs jambes. En repoussant ses cheveux, il incline l'appareil autant que possible pour entrevoir une partie de la pièce. Elle semble vide. Agnetha échange un regard avec lui, colle son oreille contre la porte du couloir et écoute. Rien. Elle secoue la tête à destination de Hugo. Il se faufile jusqu'à elle, repose son téléphone au sol et le glisse vers l'extérieur. L'écran dévoile le bas de la porte, le plafond du couloir, puis Bernard. Il se tient immobile dans la pénombre, la hache à la main et une perruque blonde sur la tête. Hugo a à peine le temps de comprendre ce qu'il voit que Bernard abat la hache contre la porte. Le choc est brutal. Hugo recule, lâche le téléphone. Agnetha attrape une chaise et la cale contre la poignée de la porte. Hugo court déverrouiller la porte du salon. L'arrière du buffet bloque le passage. La hache s'abat de nouveau sur la porte qui craque sous la violence du coup. Agnetha maintient la chaise en place et presse l'autre main contre le battant. Hugo reprend le tisonnier sur le lit et s'allonge au sol. Bernard frappe encore. Agnetha ressent le coup jusque dans son épaule. Hugo commence à ramper sous le buffet. La hache traverse la porte dans un bruit sec. Agnetha hurle. Sa main gauche a été profondément entaillée. Elle recule, puis attrape un t-shirt sur le lit et le noue autour de la plaie ensanglantée. La lame traverse le bois une deuxième fois. Bernard la retire et donne un grand coup de pied dans la porte. Les pieds de Hugo disparaissent sous le meuble. Agnetha traverse la pièce et s'allonge à son tour sur le dos en tentant de protéger sa main blessée.
Elle doit tourner la tête et coller sa joue au sol pour se glisser sous le meuble. Bernard frappe à nouveau. Le bâton éclate. Agnetta étend son bras droit au-dessus de sa tête pour saisir l'avant du buffet et pousse avec ses jambes pour tenter de se hisser. Elle halète. C'est si étroit. Ses mouvements sont limités. Sa poitrine est comprimée par le meuble. Le sol est glacé. Sa main gauche ensanglantée lui fait horriblement mal. Hugo se penche, attrape sa chemise en jean et la tire légèrement, puis lâche prise. Elle regarde le plafond du salon.
« Aide-moi » dit-elle, haletante. « Je me suis blessée à la main. »
Il tire à nouveau, mais la tige de sa botte s'est accrochée de l'autre côté. Malgré les crampes qui la saisissent, elle parvient à retirer ses bottes. Une fenêtre se brise quelque part dans la maison. Hugo lâche Agnetta et s'éloigne brusquement. Elle ne le voit plus. Ses genoux sont bloqués sous le meuble. Elle entend des pas lourds. Elle tourne la tête et voit Bernard dans l'encadrement de la porte. Une perruque blonde sur la tête, la bouche tendue à faire blanchir ses lèvres. S'aidant de ses deux mains, Agnetta tente désespérément de s'extraire de sous l'armoire en hurlant de douleur. Bernard a posé la hache sur son épaule et s'avance vers elle avec un regard vide. Soudain, Hugo apparaît derrière lui. Il abat le tisonnier de toutes ses forces sur le dos et la nuque de son père. Bernard s'effondre de tout son long, inerte. Hugo le regarde, une main devant la bouche. Agnetta se dégage enfin, roule sur le ventre et se relève en s'appuyant sur le buffet pour ne pas tomber. Le sang a traversé le tissu autour de sa main et goutte sur ses grosses chaussettes en laine. Le pied droit de Bernard tressaille quelques secondes avant de se figer. Agnetta n'arrive pas à penser clairement. La douleur la submerge. Elle regarde autour d'elle, confuse. La tempête a ouvert les portes du balcon donnant sur le jardin. D'énormes quantités de neige se sont engouffrées et recouvrent le sol, les canapés, les tables et les lampes. Deux corbeaux réfugiés dans le salon sont perchés sur la bibliothèque en acajou. Le lustre en verre se balance dans le vent. Hugo laisse tomber le tisonnier, s'adosse au mur, ferme les yeux et essuie ses joues trempées de larmes. Agnetta tremble sur ses jambes. Du sang coule abondamment de sa blessure. Subitement, elle sent une main lui saisir la cheville. Elle baisse les yeux vers Bernard. Il est tombé sur le visage. Sa bouche est ensanglantée. Agnetta n'a pas la force de se libérer. « Hugo !» murmure-t-elle. Elle tente d'avancer sa jambe, mais Bernard se laisse entraîner par le mouvement sans lâcher prise. Rassemblant ce qui lui reste de force, elle réussit à se dégager, trébuche et se rattrape contre le canapé enneigé. Un des corbeaux déploie ses ailes et pousse un croassement rauque. Bernard se redresse sur les genoux, crache au sol, puis tend le bras vers la hache. Agnetta, hébétée, se traîne vers la porte-fenêtre donnant sur le jardin. La neige vole presque à l'horizontale. Bernard gémit faiblement et tente de se mettre debout. Des mèches blondes ensanglantées pendent devant son visage. Hugo attrape fermement le bras droit d'Agnetta et la tire dehors. Ils courent dans la neige profonde aussi vite qu'ils le peuvent.